OK. Bon, alors, rebonjour à tout le monde. Donc, on va commencer cette quatrième séance du cours. Et donc, aujourd'hui, on va parler de modèle de Markov caché, donc, qui est un autre modèle probabiliste, hein, toujours basé sur les probabilités. Qui est particulièrement adapté pour la modélisation des séquences, hein, de phénomènes qui, naturellement, peuvent être décrits comme des séquences, donc typiquement comme des processus. Alors, oups, alors, pourquoi est-ce que je retourne en arrière? Mystère. Alors, dans cette séance, donc, je vais d'abord vous introduire les modèles de Markov cachés. Je vais vous dire quelques mots sur leurs applications. Ça peut être intéressant de savoir à quoi ça sert. Et puis, on étudiera les trois problèmes que l'on rencontre quand on doit utiliser les modèles de Markov cachés, qui sont l'estimation, donc en fait l'estimation de la probabilité d'une observation, hein, étant donné le modèle, l'entraînement, c'est-à-dire comment dire, l'apprentissage des probabilités du modèle à partir d'un jeu de données qui est disponible. Et le décodage, qui est en fait l'analyse d'une observation pour déterminer quelle séquence d'état caché pourrait l'avoir, comment dire, l'expliquerait. Et donc, on verra qu'il y a en fait trois types d'algorithmes qui sont mis en cause, qui sont appelés pour résoudre ces trois problèmes, et notamment l'algorithme de Viterbi, l'algorithme espérance maximisation et l'algorithme de Baum-Welch. Alors, je ne vais pas vous présenter ces algorithmes en détail parce que, heureusement pour vous et pour moi aussi, ces algorithmes sont déjà implantés dans les bibliothèques que l'on va utiliser pour mettre en œuvre ces modèles. Donc, nous n'avons pas à refaire, à réinventer la roue à chaque fois. Et ça, c'est bien. Néanmoins, il est bien d'avoir une idée de comment ces algorithmes marchent, hein, pour savoir les utiliser en bon escient. Et donc, voilà, je vais vous introduire ces algorithmes, mais à un haut niveau, hein, donc sans rentrer dans trop de détails. Donc voilà, on commence par introduire la notion générale de modèle de Markov caché. Alors, vous connaissez, donc on en a parlé à la première séance, les chaînes de Markov, hein, donc, vous savez qu'une chaîne de Markov, c'est un processus stochastique qui consiste en une certaine collection d'états, hein, et que l'on peut représenter comme la partie haute, hein, de ce diagramme. Donc, en fait, vous avez un certain nombre d'états, ici dans cet exemple 3. Et vous avez des probabilités de transition d'un état à l'autre, hein, comme représenté dans ce diagramme. Alors, les chaînes de Markov sont utilisées pour décrire des processus qui n'ont pas de mémoire, hein, donc en fait, où le passage d'un état à l'autre dépend seulement de l'état dans lequel on est et pas de l'histoire passée du système. Et alors, dans ces processus qui sont décrits par des chaînes de Markov, on fait l'hypothèse que l'état dans lequel le système se trouve est observable. Hein, donc, c'est quelque chose, c'est une variable que l'on peut observer. Et donc, et le processus est justement, en fait, une observation de ce processus est une séquence d'états observés. Alors, qu'est-ce qu'il arrive, par contre, si nous ne pouvons pas observer directement ces états, hein? On dira que ces états sont cachés, hein? Donc, non observables et donc cachés. Et par contre, imaginez que nous pouvons observer quelque chose qui dépend de l'état. Donc, en fait, il y a, c'est comme si je disais, il y a une variable aléatoire dont la distribution dépend de l'état, mais l'état n'est pas directement observable. Par contre, cette variable aléatoire dont la distribution de probabilité dépend de l'état dans lequel le processus se trouve, elle est observable. Voilà, cela donne ce que l'on appelle un modèle de Markov caché. Hein, caché parce que les états A, B, C sont cachés, ne sont pas observables. Nous ne pouvons pas les observer directement. Par contre, dans chaque état, il y a une probabilité d'émission, on l'appelle comme ça, qui est la probabilité d'émettre, que le processus émette une réalisation, donc, qui sera donc observable, de la variable aléatoire x de t, avec une distribution qui dépend de l'état dans lequel on se trouve. Donc, ce qui veut dire que si on se trouve dans l'état A, il y a une probabilité P de xt étant donné A d'émettre une valeur de x de t. Rappelez-vous, hein, donc, x de t est une variable aléatoire donc, qui peut avoir plusieurs valeurs avec une certaine distribution. Et donc, et cette écriture-là, cette notation-là signifie que la probabilité de distribution, la distribution de probabilité, j'ai dit la chose à l'envers, des valeurs de cette variable dépendent de cet état A. En même temps, il y a une probabilité de faire une transition de cet état A à un autre état, donc disons B, qui est donné par cet état, hein, qui est particulière de cet état. Mais on ne sait pas si le système fait cette transition ou pas. Hein, donc, nous, ce qu'on peut observer, c'est juste les réalisations. Sauf qu'il y a des probabilités de réalisation différentes quand on est dans cet état-là ou dans cet état-là. Hein, donc, on pourrait dire de ce fait que ce processus est doublement stochastique, hein, parce que vous avez des probabilités de transition et des probabilités d'émission qui dépendent dans l'état où le processus se trouve. Clairement, tout cela, voilà, je voulais présenter de cette forme-là avec un diagramme parce que je pense que c'est plus facile à comprendre, hein, plus convivial. Mais clairement, le tout peut se mettre sous forme matricielle. Hein. Donc, en fait, vous avez une matrice de transition d'état et vous avez aussi une matrice de probabilité d'émission. Vous aurez deux matrices de ce genre-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on introduit ce type particulier de processus doublement stochastique? Ben en fait, parce qu'il y a tout un tas de phénomènes intéressants dont l'état n'est pas observable et ce que l'on observe est juste une réalisation qui se rencontre dans plein d'applications significatives. Et je vous en donne une liste non exhaustive, hein, incomplète. Ça, ce sont les exemples les plus importants qui me sont venus à l'esprit d'application des modèles de Markov cachés. Alors, on pourrait dire que d'un point de vue historique, le domaine dans lequel les modèles de Markov cachés ont fait leur apparition en premier, c'est dans le traitement du langage et en particulier dans la reconnaissance vocale. Parce que, en fait, quand on fait de la reconnaissance vocale, en fait, de reconnaissance du parler, ce que l'on observe, ce sont des formes d'ondes. En fait, là, c'est le son produit par un locuteur. Et, bon, le son peut être pré-traité de certaines façons. Et donc, en fait, vous avez des spectrogrammes à chaque instant. C'est une réalisation. Et donc, c'est une séquence, comme vous le pouvez bien comprendre, qui dépend d'une autre séquence qui est cachée, qui n'est pas directement observable, qui est la séquence des phonèmes qui composent les mots que le locuteur est en train de prononcer. Alors, ces phonèmes correspondent de manière assez grossière, en fait, mais on pourrait dire qu'ils correspondent aux lettres qui composent le mot. Bon, c'est pas aussi direct que cela. Et bon, dans certaines langues, c'est plus direct. Donc, par exemple, dans ma langue natale, l'italien, le lien entre la façon dans laquelle les mots s'écrivent et se prononcent est assez régulière. Dans d'autres langues comme l'anglais et le français, cette correspondance est obfusquée par plein d'artefacts, en fait, on va dire, orthographes, prononciations. Voilà, il y a plein de phénomènes qui rendent cette correspondance moins directe, mais quand même, on peut dire, voilà, donc il y a les états cachés, ce sont les lettres qui composent le mot, et par contre, les observations, ce sont les sons que l'on peut cerner dans le signal audio. Voilà, c'est pour modéliser ça que, originairement, les modèles de Markov cachés ont été introduits. Mais clairement, ils peuvent être appliqués à n'importe quel phénomène qui aurait la même nature, donc une séquence d'observation qui dépend d'une séquence d'état non directement observable, et donc, par exemple, la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Alors, l'observation, c'est les courbes qui composent les lettres et l'état caché, ce sont les lettres que l'on devrait reconnaître. Hein. Sauf que dans l'écriture manuscrite, les traits qui composent l'écriture sont tous unis. Hein, donc, il n'y a pas de solution de continuité. Donc, il n'est pas évident comment séparer les lettres. Et donc, dans l'écriture manuscrite, on utilise les modèles de Markov cachés. Mais aussi dans la traduction automatique, parce que il y a... Bon, là, c'est peut-être moins évident de voir comment cela se relate au modèle de Markov caché, mais en fait, vous avez une séquence de mots non observable qui devrait être la traduction dans la langue cible, et vous avez par contre une séquence d'observation qui sont les mots dans la langue source de laquelle vous devez traduire. Et là encore, cela peut se ou bien une partie de ça peut se modéliser comme un modèle de Markov caché. Bon. En dehors du traitement du langage naturel, les modèles de Markov cachés sont très utilisés en bioinformatique pour l'analyse des séquences d'ADN et plus en particulier pour la prédiction des gènes. Donc, en fait, vous avez une longue séquence de base de nucléotides qui compose l'ADN et vous voulez, par exemple, détecter quelles sous-séquences correspondent à des gènes. À un gène, en fait, qui code pour un gène. Là aussi, vous pouvez modéliser ça comme une chaîne de Markov, excusez-moi, un modèle de Markov caché, avec deux états. Je suis en train de coder un gène, et état, je ne code rien, en fait, ce que l'on appelle intron. Ou en fait non-coding region, la région non-codeuse de l'ADN. Et sur la base des fréquences, en fait, des nucléotides qu'on observe, on doit deviner si on est dans une région codeuse ou dans une région non-codeuse. En finance aussi, par exemple, on peut utiliser les modèles de Markov cachés pour prédire ou détecter plutôt l'inversion de tendance dans les séries temporelles. Et donc, je cite ça parce que ça fera l'objet du TD d'aujourd'hui. Donc, on va appliquer les modèles de Markov cachés à un petit problème financier en utilisant les mêmes séries historiques que vous aviez utilisées lors de la première séance, si je ne m'abuse. Voilà, donc plein d'applications. Donc tout phénomène qui peut être décrit par une séquence d'observation qui dépendent d'un état non observable peuvent être modélisés par des modèles de Markov cachés. Et les modèles de Markov cachés donc, peuvent être utilisés pour analyser ce genre de phénomène. Alors, je vous disais qu'il y a trois problèmes dans le modèle de Markov caché. Donc, en fait, vous pourriez, par exemple, construire un modèle de Markov caché sur papier. Donc, en fait, vous mettez, et sur papier, sur la base de votre expertise dans le phénomène, vous décidez les probabilités des transitions d'état, les probabilités d'émission des différents symboles, on va dire. On se met dans le discret. Hein. Tout cela peut être généralisé au cas continu, même si c'est un peu plus compliqué. Mais on ne verra pas ça. Donc, on va rester dans le domaine discret. Et donc, le problème de l'estimation consiste, étant donné le modèle avec ses probabilités, sa structure, sa topologie et ses probabilités, consiste à trouver, à calculer la probabilité d'une séquence d'observation que vous avez observée. Et cela peut répondre à la question est-ce que cette observation est vraisemblable étant donné le modèle. Est-ce que le modèle explique cette séquence d'observation? Et pour faire cela, on peut utiliser l'algorithme de Baum-Welch, si on est Baum-Welch, si on est intéressé à la probabilité de tous les chemins possibles dans le modèle de Markov, ou par l'algorithme de Viterbi, si tout ce qui nous intéresse est de trouver le meilleur chemin dans ce diagramme d'état qui expliquerait les observations. Le problème de l'entraînement du modèle de Markov caché est, comment dire, s'apparente à l'entraînement d'un réseau de neurones. Donc, en fait, vous avez la topologie du modèle, donc vous fixez la topologie. Donc par, et ça, normalement, on peut avoir des idées hein, de quelle devrait être la topologie, parce que vous avez une idée des états sous-jacents aux observations que vous voyez, sauf que vous n'êtes pas capable directement d'estimer les probabilités. Les probabilités de transition et les probabilités d'émission. Et donc, l'idée, c'est de trouver les probabilités de transition et d'émission, donc les deux matrices de probabilité qui décrivent le modèle, étant donné sa topologie. Et, bien entendu, un jeu de données que vous pouvez utiliser pour faire cet entraînement. Et donc, c'est un problème de... d'estimation de paramètres. Et pour cela, l'algorithme d'espérance maximisation peut être utilisé. Hein? Dont je vais vous parler brièvement par la suite. Le troisième problème s'appelle le problème du décodage. En fait, vous avez une observation, en fait, une séquence d'observations. Et vous voulez trouver la séquence d'état la plus probable étant donné cette séquence. Par exemple, le cas typique est celui de l'analyse vocale, hein, du parler. Vous avez l'enregistrement, ou en fait, vous avez le signal audio du locuteur qui prononce un mot. Et vous voulez trouver la séquence de phonèmes, donc c'est-à-dire le mot, le plus probable étant donné cette séquence d'observation, hein, cette séquence d'échantillons audio que vous avez dans votre entrée audio. Et pour cela, l'algorithme qu'on utilise, c'est l'algorithme de Viterbi, parce que justement, vous voulez trouver le chemin le plus probable, le plus vraisemblable dans les états du modèle, étant donné les observations que vous avez faites. OK, donc, en fait, en un certain sens, on pourrait même s'arrêter là hein, si notre intérêt n'était que d'utiliser des modèles de Markov cachés en tant qu'utilisateur. À ce moment-là, il suffirait juste de prendre une bibliothèque qui met en œuvre ces modèles et de comprendre quelles sont les méthodes qui correspondent à ces trois problèmes. Bon, cependant, voilà, je vais essayer de vous donner quelques notions additionnelles sur ces algorithmes hein, pour au moins avoir une idée de comment ils marchent et donc de pouvoir s'atteindre à quel genre de résultats vous pouvez espérer. Donc, tous ces algorithmes, en fait, en gros, l'algorithme de Baum-Welch et l'algorithme de Viterbi, hein, ce sont deux algorithmes de programmation dynamique. Donc, pour les comprendre, il faut d'abord que je vous dise quelque chose sur la programmation dynamique. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est la programmation dynamique? C'est une méthode algorithmique. On va reculer un petit peu. C'est une méthode algorithmique pour résoudre des problèmes d'optimisation qui a été introduite par Richard Bellman dans les années 50 du dernier siècle. Et l'idée de base de la programmation dynamique est de résoudre un problème en le décomposant en sous-problèmes. Et jusque-là, ça nous rappelle de très près la technique dite divisée pour mieux régner. Sauf que il y a une différence. Elle deviendra évidente au prochain transparent. On décompose le problème en sous-problèmes, puis on résout les sous-problèmes, mais en allant des plus petits aux plus grands, et on stocke les résultats. Et donc, ça, c'est le stockage des résultats qui fait vraiment la différence. On stocke les résultats intermédiaires de telle sorte à ce que on ne doive plus les recalculer. Et c'est là une technique en fait, qui est connexe à ça, en fait, qui sert à mettre en œuvre cette idée de la programmation dynamique, s'appelle mémoïsation. Pas mémorisation, mais mémoïsation, sans R. Et avec avec deux points sur le i. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. Donc voilà, l'idée c'est de décomposer le problème en sous-problèmes et puis résoudre les problèmes les plus simples. Et stocker au fur et à mesure les résultats et utiliser ces résultats pour résoudre les problèmes d'ordre supérieur. Et tout cela se base sur un principe qui s'appelle principe d'optimalité de Bellman, qui dit qu'une solution optimale d'un problème s'obtient en combinant des solutions optimales à des sous-problèmes. À chaque fois que ce principe est valide, pour un problème, on est autorisé à utiliser la programmation dynamique. Donc, cette idée de stocker les résultats intermédiaires. Donc, petite illustration, alors c'est, on va dire, élémentaire, mais à mon avis, ça, c'est facile à comprendre. Donc, ça devrait faire passer le message. Donc, imaginez de devoir écrire un petit programme, un Python, pourquoi pas un Python, pour calculer les nombres de Fibonacci. Vous savez, la série de Fibonacci est définie, en fait, le énième nombre de Fibonacci est égal à la somme des deux nombres de Fibonacci précédents. Et le nombre de Fibonacci de 1 et de 2 sont 0 et 1 respectivement. Et donc, ce qui veut dire que si vous pourriez définir ça de manière récursive, et ça, c'est le premier petit bout de code, de cette façon-là, et donc def Fibonacci de n. Alors, si n est égal à 0 ou 1, vous retournez, vous renvoyez tout simplement n. Sinon, vous faites deux appels récursifs, donc Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. D'un point de vue de correction, ça c'est correct, sauf que comment dire, cette fonction récursive, elle fait beaucoup de calculs inutiles. Parce qu'en fait, vous avez cette chaîne de dépendance. Je me suis arrêté à ça. F de 5 dépend de F de 3 et de F de 4. Donc, si vous voulez calculer ça, vous faites un appel récursif de F de 3 et F de 4. À son tour, F de 4 va utiliser F de 3, F de 2, F de 3 va utiliser F de 2 et F de 3 va utiliser aussi F de 1. F de 2 va se baser sur F de 1. Et puis, F de 1, cette fois-ci, c'est 1 et donc il n'y a plus. Mais donc, si vous faites cette fonction, si vous écrivez cette fonction récursive, à chaque fois que vous voulez calculer un nombre de Fibonacci, vous allez faire une quantité de travail, comment dire, de doublons de travail, si vous voulez. Parce que vous commencez par calculer F4. Pour calculer F4, vous calculez F3, F2, et puis jusqu'à la fin. Et puis, vous allez calculer F3 que vous aviez déjà calculé pour F4, mais vous ne l'avez pas stocké. Et donc, vous devez refaire le calcul de F3. Et pour faire le calcul de F3, vous devez recalculer F2 que vous aviez déjà utilisé pour calculer F4 et F1 que vous avez déjà utilisé pour calculer F2. Et donc, voilà une nouvelle version. Mais cette fois-ci, en utilisant la programmation dynamique, le principe de programmation dynamique. Et donc, ça c'est. Alors, ce premier bout de code, il utilise l'idée de diviser pour mieux régner. Hein. Voilà, en fait, on décompose un problème plus simple, mais on ne stocke pas les résultats intermédiaires. Ici, par contre, programmation dynamique, on décompose et on stocke les résultats intermédiaires. Et en plus, on commence à résoudre les problèmes les plus élémentaires avant de résoudre les problèmes plus complexes. Et donc, on part de 0, hein, pour calculer le nombre de Fibonacci de n. On part du début de la série. Donc, on calcule F0, F1 et on les stocke. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à n, on calcule tous les résultats intermédiaires qui, de toute façon, vont être utilisés pour calculer Fibonacci de n. Et finalement, on renvoie f de n. Ça, c'est l'idée générale. Hein. Donc, imaginez ça appliqué à un problème où la décomposition de ce genre-là engendre un arbre complet, et donc dont le nombre de nœuds augmente de façon exponentielle avec le nombre de niveaux. Vous comprenez tout de suite que cela peut nous permettre de épargner beaucoup de temps. Et donc, première application de cette idée de programmation dynamique, c'est l'algorithme de Viterbi. Alors, l'algorithme de Viterbi consiste à, bon, c'est pour trouver comment dire, le chemin le plus probable, hein, étant donné une observation, la succession d'états la plus probable étant donné une observation, étant donné de l'évidence. C'est pourquoi on utilise ici la lettre E, hein, c'est E comme évidence. Alors, l'idée, c'est que on veut maximiser, en fait, on veut trouver le maximum des probabilités d'observer x1 jusqu'à xt plus la dernière observation. Donc, je mets ça si on veut faire de la prédiction. Hein. Sinon, il n'y aurait pas. Celle-là, elle serait aussi une réalisation et pas une variable aléatoire, étant donné les observations qu'on a faites. Et donc, ça, on peut l'exprimer comme une constante, hein, alpha, qui ne nous intéresse pas spécialement, fois la probabilité d'observer. Donc là, je suis en train d'appliquer la règle de Bayes. La probabilité des observations, étant donné comment dire, la toute dernière observation qu'on a faite, fois le maximum, donc ça, c'est le même problème qu'avant, fois la probabilité d'observer cette dernière, toute dernière observation, fois la succession d'états la plus probable étant donné les observations. Et donc, voilà, vous voyez, donc ça, c'est la règle, le chain rule, comme elle est appelée en anglais. Donc, la règle de chaînage que nous avons rencontrée aussi pour les réseaux bayésiens. Et donc, en fait, ce passage peut se répéter autant de fois que vous avez d'observations ici. Donc, ici, vous en avez T. En fait, vous avez une chaîne de T équations de ce genre-là. Et à chaque fois, donc c'est comme si vous construisiez un arbre, hein, donc, étant donné la dernière observation, toutes les possibilités précédentes, plus toutes les possibilités précédentes, etc. etc. C'est un arbre exponentiel. Mais dans les probabilités que vous obtenez à chaque, en fait, dans chaque feuille se répètent, hein, ce sont toujours les mêmes. Et donc, d'où l'opportunité d'utiliser une approche programmation dynamique pour comment dire, vélociser, pour rendre ce calcul plus performant. Et donc, ici, on est le principe d'optimalité de Bellman se traduit en ça. Donc, en fait, le chemin, c'est-à-dire séquence d'observation optimale, est composé de sous-chemins optimaux. Si vous avez une chaîne d'observation qui est la plus probable, étant donné, au contraire, plutôt, on va dire, si vous avez une séquence d'états qui est le plus probable, étant donné les observations, alors chaque sous-chemin, chaque sous-séquence d'états doit être aussi la plus probable, étant donné les observations. La mise en œuvre de cette idée nous donne l'algorithme de Viterbi. Bon, je pense qu'avec ce que je vous ai dit, vous seriez probablement en mesure de trouver tous les détails. Donc, ce n'est pas la peine que j'entre dans les détails, mais le principe est celui-là. Un autre algorithme qui est utilisé et cette fois-ci, c'est l'algorithme qui est utilisé pour faire l'entraînement d'un modèle de Markov caché, et le célèbre algorithme espérance maximisation, qui trouve son utilisation dans plein de tâches, hein, d'apprentissage non supervisées, notamment. Et donc ici, je vous donne la version en fait qu'on utilise pour le clustering, hein, mais bon, en fait, l'idée est à peu près la même. Hein. Donc, en fait, vous avez un modèle qui, dans le clustering, peut être vu comme une mixture de modèles gaussiens. Vous initialisez ce modèle aléatoirement, et donc par exemple dans le clustering, ça consiste à fixer arbitrairement ces centroïdes, hein, ou ces distributions normales avec une moyenne et des variances, et puis on affine ce modèle itérativement en alternant deux étapes qui sont appelées espérance et maximisation, d'où le nom algorithme espérance-maximisation. Dans l'étape espérance, vous calculez, l'espérance mathématique, hein, vous calculez la probabilité que chaque observation appartienne soit engendré par chacune des gaussiennes qui composent la mixture, et donc sur cette base vous affectez chaque observation au modèle le plus probable, hein, pour lequel cette probabilité est maximale. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites la maximisation. Vous réestimez les paramètres du modèle. Donc, c'est-à-dire, étant donné les affectations que vous avez fait dans cette phase, vous recalculez la moyenne et la variance de chacune des gaussiennes, hein, ou de chacun des clusters. Ça, c'est juste l'application. Donc, en fait, vous réestimez les paramètres du modèle. Une fois que vous avez réestimé les paramètres du modèle, vous recalculez la probabilité de chaque observation étant donné chacune des gaussiennes qui appartiennent à la mixture, et vous réaffectez chaque observation à sa gaussienne la plus probable, et puis vous réestimez les paramètres des gaussiennes, et vous continuez comme ça jusqu'à obtenir la convergence, hein, la convergence qui arrive assez tôt. Et donc de ce fait, vous, en quelque sorte, êtes en train de maximiser l'espérance, hein, maximiser la probabilité ou la vraisemblance de l'affectation de chacun de chacune des observations aux éléments du modèle. Bon, dans les modèles de Markov cachés, le processus marche de manière similaire, sauf que au lieu d'avoir des clusters, vous avez des états, hein, des états qui correspondent aux observations, et vous avez les probabilités de transition d'état et d'émission des observations qui doivent être estimé, réestimé à chaque itération. Mais l'idée de l'algorithme est plus ou moins la même. Donc, ça s'appelle espérance maximisation. Alors, attendez, avant que j'avance, une chose importante à noter ici, c'est que cet algorithme d'espérance maximisation, c'est un algorithme d'optimisation, mais comment dire, qui fait une espèce de descente du gradient, et donc il converge toujours dans un minimum local, hein. Donc il n'est pas capable de faire une optimisation globale. C'est la raison pour laquelle, c'est le même problème des algorithmes d'apprentissage des réseaux de neurones aussi, hein. En fait, ils sont des algorithmes d'optimisation locale. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez trouver le meilleur modèle de Markov caché, étant donné un ensemble d'observations, il est bonne pratique de répéter cette phase de espérance maximisation plusieurs fois, et à la fin choisir celle qui donne les résultats les meilleurs. Bon. Ou bien on pourrait utiliser un algorithme évolutionnaire, hein, pourquoi pas. Mais bon, ça sort de, comment dire, du sujet de cette séance. Voilà. Donc, dans la pratique, l'espérance maximisation marche assez bien pour donner des résultats utilisables. Hein. Donc, même si elle ne trouve pas si cet algorithme ne trouve pas le maximum global, même les optima locaux qui sont trouvés sont souvent assez bons. Donc, on peut se contenter de ça. Alors, troisième algorithme que j'ai mentionné, c'est l'algorithme de Baum-Welch, qui est un cas particulier d'une généralisation de l'algorithme espérance-maximisation. Donc, en fait, il tombe toujours dans la même catégorie espérance-maximisation. C'est un cas particulier. Et en fait, il consiste à déterminer le modèle qui explique le mieux une séquence d'observations données. C'est encore une fois un algorithme itératif, hein, parce que c'est un exemple, en fait, un cas particulier d'espérance estimation. Donc, lui aussi, il marche en deux étapes qui s'alternent. Hein. Et donc, cet algorithme itératif permet d'estimer les paramètres du modèle qui maximise la probabilité d'une séquence d'observation. Pourquoi est-ce que j'ai écrit observable? Bon, je ne suis pas sûr. Une séquence d'observation. Et donc, il converge lui aussi vers un maximum local. Et donc, là aussi, si on est intéressé à obtenir un modèle le plus affiné possible, il est bonne pratique de répéter la procédure plusieurs fois et puis garder celle qui donne la meilleure, on va dire, correspondance avec les observations. Voilà, donc je n'entrerai pas dans les détails parce que de toute façon, comme je vous le disais, ces trois algorithmes, donc Ban Ouvert, Viterbi et Espérance Maximisation, sont mis en œuvre dans les bibliothèques que vous pouvez utiliser pour appliquer les modèles de Markov caché. Donc, il est bien de connaître les principes généraux, mais de toute façon, vous n'êtes pas susceptible de réimplémenter ces algorithmes. Donc, ce n'est pas la peine que j'entre dans trop de détails. Et donc, on s'arrête là pour la partie courte d'aujourd'hui. Et donc, le TD que je vous propose aujourd'hui consiste à appliquer le modèle de Markov caché à des séries historiques financières pour, en quelque sorte, détecter les deux tendances possibles, les deux phases d'un marché qui sont appelées taureau et ours. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça. C'est, en fait, dans le jargon des traders, en fait, on appelle taureau la phase de marché en hausse, où les prix ont tendance à augmenter, et ours, c'est la phase du marché en baisse. Donc, on va faire une modélisation très simple en utilisant le modèle de Markov caché. Voilà. Donc, on va faire... alors, déjà, j'arrête...